France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Saint-Pest.
Un jour dans le monde, c'est un jour de plus au Proche-Orient ce soir. C'est Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, qu'on entend. Les troupes se retirent de Ran Younes, dit-il, pour se préparer à leur future mission. Nous avons vu des exemples de ces missions lors de l'opération à l'hôpital Al-Shifa, ainsi que leur future mission dans la région de Rafah. Comme ça, au moins, les choses sont claires. C'est la dernière déclaration de Yoav Gallant, qui a dit autre chose aussi récemment, et on en parlera ensemble. Bonsoir, Agnès Levallois.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-Orient. Vous êtes maîtresse de conférence à la Fondation pour la Recherche Stratégique et chargée de cours aussi à Sciences Po. Je le disais, ça a le mérite d'être clair. Moi, je lis deux choses et vous allez me dire si je me trompe dans ce que dit Yoav Gallant. Il dit, en creux, d'une part, nous retirer, ça nous laisse l'opportunité, vous laisse l'opportunité, vous, Gazaoui, de quitter Rafah, de revenir, même si du coup ça fait moins de monde parce qu'on sait très bien qu'il y aura une offensive. Et ce que ça dit en creux, c'est qu'on est en train de se regrouper parce qu'il y a autre chose à venir derrière et peut-être plus au nord. Donc ça ne parle pas de retrait, ça ne parle de guerre, ça parle de guerre du début à la fin ou pas?
Oui, absolument, ça parle complètement de guerre et on voit bien que dans cette annonce de retrait de Khan Younes, c'est aussi un moyen pour les Israéliens de dire que les civils qui sont bloqués à Rafah, et on sait qu'il y a plus d'un million de personnes et que l'exigence américaine c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de civils qui soient touchés et donc c'est une façon de dire, bah, écoutez, déplacez-vous, alors vous étiez au nord, vous êtes allé au sud, maintenant vous dites de remonter vers Khan Younes avec un mépris total pour cette population civile qui est vraiment baladée au gré des déclarations et des destructions.
Il dit aussi, il l'a dit là aujourd'hui, Yoav Gallant, ce ministre de la Défense, il dit nous sommes en un moment opportun et notamment pour un éventuel cesser le feu et d'éventuelles discussions. Et là aussi, est-ce que c'est une manière de dire nous sommes en position de force? Je peux comprendre que l'armée le dise. Est-ce que ça a du sens réellement de dire nous sommes en position de force? Est-ce qu'au fond c'est vrai?
Pas vraiment, parce qu'on est, vous l'avez rappelé, après 6 mois de bombardement avec des objectifs qui avaient été fixés par Netanyahou au début, qui était d'éliminer la présence du Hamas dans la bande de Gaza. On voit bien qu'il n'y arrive pas et que le Khan Younes était un objectif pour l'armée israélienne parce qu'il s'agissait de trouver le responsable du Hamas, si noir, qui est originaire de Khan Younes. Et on voit bien que de toute façon, cet objectif n'a pas été atteint. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de rassembler les forces, aussi de faire en sorte que l'armée composée en partie de réservistes aille se reposer un peu avant de repartir. Mais tout ça pour dire qu'au bout de 6 mois, aucun des objectifs n'a été atteint, puisque les otages n'ont pas été libérés, et qu'il y a une pression de plus en plus grande en Israël même pour la libération des otages, que les plus hauts responsables du Hamas n'ont pas été pris par l'armée israélienne, et que la bande de Gaza est détruite. Donc je ne sais pas en quoi ces objectifs ont été atteints.
Alors les objectifs atteints, en tout cas les hauts gradés, c'est pas dans la bande de Gaza visiblement qu'ils ont été tués. On entend parler de nouvelles phases. Gaza est rasée donc ou presque. Le Hezbollah est visé au Liban de manière récurrente et régulière. Et puis il y a eu cette attaque contre le consulat iranien de Damas avec la mort d'un très haut gradé qui s'appelle Mohamed Reza Zaidi. Et c'est important parce que c'est celui qui était chargé de l'envoi des munitions au Hezbollah notamment. Qu'est-ce que ça nous dit ça aussi quand il dit qu'on repose l'armée d'abord et qu'on repart derrière? Est-ce que ça dit aussi nous sommes prêts à ouvrir d'autres fronts et nous allons vers l'ouverture d'autres fronts?
Mais Netanyahou, je pense, est tout à fait décidé à aller sur cet autre front qui est le front libanais. On sait très bien que là aussi, pour faire un peu oublier l'absence de résultats plus significatif dans la bande de Gaza, qu'il peut tout à fait être tenté de se diriger vers le nord, de se lancer dans une opération contre le Hezbollah, que là aussi il y a une pression de la part d'une partie de la population israélienne, en particulier ceux qui habitent le nord du Liban et qui ont quitté le nord du Liban et qui aimeraient bien retourner chez eux, mais qui ne veulent pas y retourner tant que une zone de sécurité n'aura pas été établie au sud Liban et que pour ça, pour Netanyahou, la seule solution, c'est d'attaquer. Et dans ce message qui a été envoyé par cette attaque à Damas, hein, de cette emprise diplomatique quand même dans la capitale syrienne, le consulat, ce qui est quand même un acte qui va à l'encontre du droit international si on respecte ce droit international. Et donc c'est un message très clair pour dire, en fait, on fait ce qu'on veut, on a les renseignements qui nous permettent d'atteindre des hauts responsables.
Est-ce que le message est aussi un piège tendu à l'Iran qui dit chiche, allez-y, et on sait très bien que, enfin, vous allez nous le dire, mais que la capacité de l'Iran en ce moment est compliquée, que jusqu'à présent, s'ils avaient voulu engager un front nord avec le Hezbollah, ils l'auraient fait et ils ne l'ont pas fait. Donc est-ce qu'Israël est en train de dire au Liban, allez-y, chiche, et vous allez voir comment on répondra ?
Moi, je crois que Israël tente de pousser l'Iran à la faute, c'est-à-dire que Israël souhaite, à mon avis, que l'Iran réplique, et l'Iran, pour l'instant, ne veut pas répliquer, parce que l'Iran est tout à fait conscient qu'il a tout à perdre en répliquant, et ce qu'on ne peut pas exclure, c'est que l'Iran, en revanche, agite ou incite des groupes, et je pense plus particulièrement présents en Irak, pour mener des opérations contre, éventuellement, comme ça a déjà été le cas par le passé, contre des intérêts américains en Irak. Mais je ne vois absolument pas, mais soyons très prudents évidemment, mais je ne crois pas que l'Iran va se lancer dans une riposte, même si le discours va dans le sens, évidemment, d'une réaction. Mais l'Iran sait très bien que s'il réplique, à ce moment-là, ce sera la porte ouverte pour une réaction beaucoup plus forte de la part d'Israël. Et donc Israël, je crois vraiment, cherche à provoquer l'Iran dans cette affaire.
En même temps, moi j'ai lu que la mort de Mohamed Reza Zahedi était à peu près du même acabit, si je puis dire, que la mort de Qassem Soleimani en 2020, là, qui avait été tué par les Américains. Est-ce que ces personnages-là sont de la même hauteur et donc appellent effectivement une réponse de toute façon, parce que la hauteur du personnage est très importante?
C'est un personnage important parce que c'est lui qui était en charge effectivement de la force El-Quds, qui est donc la branche armée des gardiens de la révolution, qui est vraiment le corps qui protège la révolution islamique et qui est chargé de toutes ces opérations à l'extérieur de l'Iran. Donc évidemment que c'est un personnage important qui était en charge de la Syrie et du Liban, donc avec toute la stratégie iranienne, bien sûr. Mais même si c'est un personnage très important, comme il les décrit, et c'est effectivement le cas, de là à réagir avec les conséquences que ça pourrait avoir sur l'Iran, qui sait très bien que une réaction israélienne mettra à mal aussi toute sa stratégie à venir. Et donc l'Iran, pour l'instant, sont des stratèges iraniens. Ils le démontrent quand même de façon spectaculaire, si je puis dire, depuis maintenant quand même des années, et dans cette affaire-là, tout particulièrement.
Mais même à l'époque de la mort de Soleimani, d'ailleurs, si on s'en souvient, qu'est-ce qu'il y avait eu comme représailles, si ce n'est pas grand-chose.
Et donc, il y a eu effectivement, de temps en temps, il y a des opérations contre les Américains en Irak, parce que c'est peut-être la chose la plus facile à faire. Il y a le Hezbollah qui continue à mener des opérations quand même ponctuelles sur le nord d'Israël. Mais là aussi, le Hezbollah sait très bien qu'il ne doit pas aller trop loin, puisque quand on voit même le nombre de pertes côté libanais, en comparaison au nombre de pertes côté israélien, il n'y a pas de commune mesure. Donc il y a plus de 350 morts des combattants du Hezbollah aujourd'hui au Liban. C'est déjà énorme pour ce mouvement qui est effectivement agit en partie pour le compte des Iraniens.
Quand Netanyahou dit « nous sommes à un pas de la victoire », on entend bien ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de dire à sa population. Vous l'avez dit vous-même, on est en plus dans une période où les manifestations monstres et importantes contre lui ont repris. Donc ça veut dire qu'on recommence à faire de la politique en Israël, ce qui est toujours une bonne nouvelle. En fait, quand on fait de la politique, quel que soit le pays dans lequel on est, à un pas de la victoire, est-ce qu'une offensive sur Rafah pour en finir avec Gaza, est-ce que vous y croyez, Agnès Levallois? Est-ce que vous pensez que c'est le futur immédiat, c'est ça?
Alors, il va y avoir une opération sur Rafah, ça je crois que effectivement le Netanyahou l'annonce depuis trop longtemps pour qu'il ne se passe rien. Maintenant, les pressions américaines quand même sur Rafah sont importantes, mais ce que je crains, c'est qu'avec cette décision de quitter Khan Younes, et qui est donc un moyen maintenant pour les Israéliens de dire aux civils « partez », et si vous partez pas, tant pis pour vous, et s'il y a des pertes, nous ne serons pas responsables, eh bien, ça justifie à mon avis le fait qu'on va aller vers cette offensive de Rafah, qui sera peut-être un peu moins douloureuse, parce qu'effectivement, ou dramatique, parce qu'une partie des civils essaye de remonter maintenant vers le nord, mais ça risque d'être catastrophique, sauf si les Américains arrivent à retenir Netanyahou de ne pas aller dans cette opération. Mais je crains, avec tous les éléments qu'on vient de développer, que cette opération aura lieu sur Rafah, mais peut-être dans des proportions moindres que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques jours.
Une trêve là pendant cette période-là où effectivement donc Israël partiellement se retire d'une partie de la bande de Gaza. Les discussions au fond elles se poursuivent même si elles sont extrêmement laborieuses. Vous y croyez à cette trêve-là ou pas, Agnès Levallois?
Pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'on avait dit quand même que le mois de Ramadan était vraiment la période au cours de laquelle il devait y avoir une trêve. Cette trêve n'a pas eu lieu et les bombardements ont continué. Donc maintenant tout le monde dit pour l'Aïd, mais l'Aïd a lieu demain, donc la fête de fin de Ramadan. Tout ça me paraît... Je crois que toutes ces discussions et toutes ces annonces, c'est simplement pour gagner du temps. Et pendant ce temps-là, les bombardements continuent et c'est la population civile de Gaza qui continue à payer le prix fort. C'est vraiment gagner du temps en permanence, faire croire que, mais au bout du compte, ni le Hamas, ni Netanyahou ne souhaitent aujourd'hui une trêve. Donc on est vraiment dans une impasse terrible pour la population civile. Revenons quand même à ça qui est quand même le plus important dans cette affaire.
Ni le Hamas, ni Israël ne souhaitent réellement une trêve. Et vous l'avez dit, le Hezbollah ne souhaite pas un conflit ouvert, alors que Israël souhaiterait, lui, elle, un conflit ouvert. Et pour les raisons que vous nous avez expliquées, on a déjà dit qu'on était dans une impasse dans ce conflit. J'ai l'impression qu'on est plus que dans une impasse, là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, en fait, là où nous sommes à ce stade du conflit, 6 mois après.
Oui, dans une situation qui est absolument, j'allais dire, infernale. Ouais. Parce que quelle que soit l'analyse qu'on essaye de faire de la façon la plus froide possible, en évaluant les rapports de force, on s'aperçoit qu'on a d'un côté un Netanyahou qui, de toute façon, pour rester en place et qui joue tellement gros personnellement, qui est prêt à mettre ce territoire à feu et à sang, comme on l'a vu maintenant depuis 6 mois. Et de l'autre côté, on a un Hamas qui, effectivement, sait qu'il peut être en perte de vitesse parce que les Gazaouis payent tellement cher qu'il y a le risque qu'ils se retournent. Une partie des Gazaouis se retourne contre le Hamas alors qu'il a engrangé des gains en Cisjordanie en particulier. Et donc le Hamas joue gros aussi en termes de crédibilité. D'ailleurs, il a présenté des excuses
absolument,
à la population la semaine dernière, ce qui était une façon de dire on sait que tout ça. Mais pour l'instant, on voit bien que le Hamas n'est pas prêt non plus à faire des pas pour une trêve. Donc on a les deux parties qui ne sont pas du tout dans un rapport de force équivalent. Il y a une asymétrie terrible, mais en même temps, avec une possibilité des deux côtés de maintenir ce conflit en l'état et avec le drame que ça représente.
Et ça fait 6 mois, c'est déjà le plus long qu'est connue cette région. Agnès Levallois, il m'est avis que vous allez revenir. J'ai envie de dire hélas, mais ce serait toujours avec plaisir. Merci beaucoup de votre passage chez nous.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Ukraine où on essaie de prendre soin des grands blessés de guerre mais aussi de leurs femmes par endroits, vous allez voir, pour aller jusqu'à 19h. Kevin Dufresh sous les radars.
En Turquie, où hier soir la Super Coupe de football a duré 3 minutes.
Le Monde à 18h50, c'est Antoine Malo ce soir. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Les États-Unis remettent la pression sur la Chine. Et à 7 mois de l'élection présidentielle américaine, ce n'est peut-être pas un hasard.
La BO du Monde est Cyril Sauvageau. Salut Cyril.
Bonsoir. On sera en Hongrie avec une campagne pro-Orban qui détourne l'image d'un célèbre groupe punk américain, les Dead Kennedys. Pas content du tout, vous l'entendrez.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par Nottingham avec des morceaux de Jamaïque à l'intérieur. Lam Bailey, Dance With Me sur France Inter. Merci de passer la soirée avec nous. We'll be right back. Nous sommes en Ukraine, au milieu d'une guerre qui marque évidemment les corps et qui les mutile parfois, les amputés, double amputés. La société ukrainienne se mobilise pour les réintégrer à la vie civile, pour leur faire une place, même si parfois c'est très compliqué. Des moyens importants, ils sont consacrés, rééducation physique, rééducation mentale. À Lviv, dans l'ouest du pays, il y a par exemple une très grande clinique, elle est flambant neuve. Elle est nommée Superhumans, une sorte de vitrine de ce qui se fait de mieux pour soigner les hommes revenus abîmés du front. Mais quelle aide et quelle écoute propose-t-on à leurs femmes qui se retrouvent au cœur de la fameuse résilience ukrainienne? Et le reste, c'est Camille Manière qui raconte.
Superhumans, c'est un endroit dédié aux hommes. Des centaines de soldats revenus du front, amputés, d'un bras ou d'une jambe, parfois des deux, trouvent ici tout ce dont ils ont besoin. Des prothèses sur mesure aux séances de rééducation par le sport, en passant par l'indispensable accompagnement psychologique. Les femmes ici, ce sont des soignantes ou bien des aidantes, compagnes, sœurs, mères de soldats mutilés que l'on croise à peine, fuyantes dans la grande salle d'attente. Dans une pièce voisine, une équipe de psychologues se prépare à ouvrir un groupe de soutien spécialement dédié à ces femmes et Svitlana Kostenko en est l'initiatrice.
Pas plus tard que vendredi dernier, j'ai fait des démarches pour qu'une femme qui s'occupait de son frère gravement blessé, avec des troubles cognitifs depuis 2 mois sans interruption, puisse aller se reposer pendant 2 semaines. Donc on les force à prendre soin d'elles-mêmes. Sinon, ça peut très mal finir.
Derrière, il y a bien sûr le risque de l'épuisement, de la dépression pour ces femmes qui se retrouvent malgré elles en première ligne pour gérer ces retours de soldats. Blessés, traumatisés. Des moments où se mêlent tant d'émotions contradictoires, nous explique Natalia Yefremova. Elle a dû fuir les combats dans sa région de Zaporizhia pour s'établir comme psychologue à Lviv.
La plus grande peur des soldats, ce n'est pas de mourir au front, mais de rester handicapé, amoindri. Et quand ils reviennent blessés ou amputés, ils doivent apprendre à vivre avec ça, affronter leurs peurs, et affronter aussi les retrouvailles avec leurs proches qui ne savent pas non plus comment gérer ces nouveaux défis. Les femmes que nous accompagnons, c'est leur guerre, leur ligne de front. Elles n'ont pas été préparées à ça.
À travers ce qu'elles vivent avec leurs compagnons, c'est la guerre qui s'immisce dans les cellules les plus intimes de la société ukrainienne. Les familles, les couples, où les conséquences se font déjà ressentir, confirme Natalia.
Le nombre de divorces augmente, c'est une réalité. Et les violences conjugales, ce ne sont pas des cas isolés. L'agressivité est systématique parmi les vétérans. Parce que quand vous êtes sur la ligne de front, il n'y a que 2 émotions qui vous permettent de survivre. La peur et l'agressivité. Et quand les gars rentrent, ils n'arrivent pas à en sortir facilement. Et puis l'incompréhension des proches renforce encore cette tension. Ils s'attendent à retrouver la personne qu'ils ont vue partir et ça entraîne des conflits.
Dans la salle d'attente de Superhumans, on rencontre bien des femmes de soldats amputés comme Maria. Mais Maria, pas plus que les autres, n'acceptera de nous révéler l'envers du décor de cette société ukrainienne qui ne veut surtout pas brouiller l'image du sacrifice héroïque de ces soldats. D'autant qu'on le répète beaucoup aux femmes ici. Elles doivent être fortes, la santé de leurs hommes en dépend, insiste Svitlana Kostenko.
On considère des membres des familles de nos patients comme les participants très importants du processus de rééducation. Franchement, l'efficacité de la rééducation des patients dépend beaucoup d'eux.
Une injonction de plus, reconnaît Svitlana, pour ces femmes, ces mères, ces sœurs de soldats mutilés, qui doivent renoncer à tout ce qui faisait leur vie d'avant.
Dans ce processus, les femmes doivent faire le deuil de leurs illusions. Pendant des mois, elles ont tenu psychologiquement grâce à l'idée qu'il fallait juste patienter, qu'après tout irait bien, leur compagnon reviendrait. Alors oui, il est revenu, tout va bien aller, mais d'une autre manière, très différente de la vie d'avant.
Cette vie d'après, résume Svitlana Kostenko, pour ces femmes, c'est comme si elles aussi devaient s'habituer à vivre avec une prothèse, avec une vie amputée. Sauf que pour elles, les possibilités d'appeler à l'aide sont encore bien rares. Les groupes de soutien comme celui de Superhumans commencent à peine à se mettre en place, timidement, à travers l'Ukraine.
Camille Manière pour le reportage. L'actualité internationale, quand elle passe sous les radars, est rattrapée au vol par Kevin Dufraîche. Et nous sommes en Turquie avec une nouvelle scène hallucinante sur un terrain de foot.
Mais c'était hier soir, la Supercoupe de Turquie oppose les 2 plus grands clubs d'Istanbul, Fenerbahçe et Galatasaray. Sauf que le Fener fait jouer non pas son équipe type, mais c'est moins de 19 ans et Galatasaray marque dès la première minute. Et là, nouveau coup de théâtre, les joueurs de Fenerbahçe quittent carrément le terrain. Ils déclarent forfait au bout de 3 minutes. Ceux de Galatasaray ont alors affronté leur coéquipier remplaçant pour divertir le public. La raison de cette protestation, le conflit entre Fenerbahçe et la Fédération turque de foot. Le club, par l'intermédiaire de son président, affirme que le championnat est truqué, qu'on empêche son équipe de le remporter. Il parle, je cite, d'un réseau occulte qui décide du déroulé du championnat par l'intermédiaire des arbitres. C'est tellement ridicule que ça peut faire sourire, mais c'est surtout un énième épisode de la grave crise que connaît le football turc depuis le début de la saison. On a quand même vu un président de club frapper un arbitre et des supporters de Trabzonspor se battre avec des joueurs de Fenerbahçe, tiens, au milieu de la pelouse.
Allez, nous sommes au Brésil où la guerre est déclarée entre la Cour suprême et Elon Musk.
Oui, le patron de X est visé par une enquête ordonnée hier par Alexandre de Moraes, un des juges de cette Cour suprême, et qu'Elon Musk a vertement attaqué sur son réseau social ce week-end, l'accusant de censure, un terme qu'il aime bien, on le sait, brandir à tort et à travers, demandant même la démission ou la destitution de Moraes. En fait, la Cour suprême du Brésil a ordonné le blocage de plusieurs comptes sur X dans le pays ces dernières années parce qu'il diffusait des fausses informations, principalement des comptes de sympathisants de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Voilà ce qui fait crier Elon Musk à la censure et d'ajouter qu'à cause de ces suspensions de comptes, X va perdre tous ses revenus au Brésil et devoir fermer ses bureaux sur place. Dans son arrêt judiciaire, Moraes met en garde X contre la tentation de réactiver ses comptes suspendus sous peine d'amende.
Et puis nous sommes en Tunisie pour la fin d'un défi complètement fou.
Oui, je vous en avais parlé en janvier dernier déjà de Russ Cook, le Forrest Gump des temps modernes. Ce Britannique de 27 ans a traversé l'Afrique du sud au nord uniquement en courant. Il a fait 16 250 km en 351 jours. Il est arrivé hier avec sa longue barbe rousse au Cap Angela en Tunisie, le point le plus au nord du continent. Acclamé, on l'a entendu par ses proches. Parti d'Afrique du Sud le 22 avril 2023, il a traversé l'Afrique par l'ouest, traversant montagnes, forêts tropicales et même le Sahara, le tout avec énormément de galères. Un passeport et matériel volé, problème de visa pour entrer dans certains pays. Il affirme être devenu le premier à courir sur toute la longueur de l'Afrique, on le croit, hein. Et le but, c'était d'appeler aux dons à travers son exploit pour une association britannique qui aide les sans-abri. Il a récolté près de 700 000 euros. Chapeau.
Je me demande combien ça fait de paire de chaussures, 16 250 km.
Je ne sais pas.
Kevin a raison d'une paire de chaussures toutes les, disons, 50 km.
Ce que je sais, c'est que ça
40
fait
ou 50 km.
Plus de 350 marathons.
Voilà, je vous laisse réfléchir au son de Cuba avec Ibrahim Ferrer, Ay Candela, tout de suite. Allez, vous êtes dans Un jour dans le monde.
We'll be right back.
Allez, ça met tout le monde en joie, ça. Ibrahim Ferrer, Aï Candela sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde, Le Monde à 18h50. C'est Antoine Malo toute cette semaine.
Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Et Antoine, vous nous parlez ce soir des relations entre la Chine et les États-Unis. En apparence, elles semblent plus apaisées depuis que Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés au mois de novembre. Mais les apparences parfois sont trompeuses.
Effectivement, et on en a la démonstration depuis quelques jours. Cette fois, ce sont les Américains qui sont à l'offensive. D'abord, il y a eu cette sortie samedi de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor. En visite à Canton, elle a mis en garde les entreprises chinoises contre toute assistance à Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Sous peine, je cite, de conséquences importantes. Sous-entendu, on voit ce que vous faites et on vous demande d'arrêter. Puis hier, il y a eu ces manœuvres militaires organisées en mer de Chine méridionale. Y ont pris part les armées américaines, japonaises, australiennes et philippines. Une manière de montrer aux Chinois que cette zone qu'ils convoitent reste défendue par un front uni. Mais au cas où Pékin n'aurait pas bien saisi le message, Joe Biden organise jeudi à Washington un sommet, le premier du genre, avec le premier ministre japonais et le président philippin. De nouveaux partenariats économiques, mais surtout militaires, devraient être évoqués. Bref, tout ce qui hérisse le poil du régime chinois.
Et alors, comment réagit-il ce régime chinois ?
Bah mal, forcément. Après, c'est quand même difficile de considérer Pékin comme une victime dans cette affaire. Parce qu'en mer de Chine, sa marine se montre toujours plus agressive, notamment à l'égard des navires philippins. Quant au dossier ukrainien, il est clair que les liens entre Pékin et le Kremlin se sont renforcés depuis le début de la guerre en 2022. Un article de Bloomberg, ce week-end, affirme que les Chinois fournissent désormais du renseignement géospatial à Moscou. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a entamé aujourd'hui une visite en Chine pour discuter de sujets brûlants, c'est l'expression qu'utilise Moscou, et notamment du conflit avec Kiev. Donc du point de vue de Washington, il y a bien une légitimité à s'en prendre au pouvoir chinois pour défendre ses intérêts stratégiques. Mais il y a aussi peut-être dans cette posture américaine un enjeu de politique intérieure.
Et oui, parce que tout ça a sans doute à voir avec l'élection présidentielle américaine du mois de novembre. Mais quoi, ça aura une influence, ça aurait une influence,
hein ? Eh bien, il suffit de regarder ce sondage Gallup paru le mois dernier. Quand on demande aux Américains quel est le principal ennemi des États-Unis, c'est encore et toujours la Chine qui arrive en tête. Loin, très loin devant la Russie ou l'Iran. Ça, l'équipe Biden l'a bien intégré. D'ailleurs, au cours de son mandat, le démocrate s'est montré bien plus intraitable que Trump avec le régime chinois, que ce soit dans la rivalité commerciale qui oppose les deux pays, dans la guerre pour l'accès aux si précieux semi-conducteurs ou dans le jeu d'alliances noué en Asie. Pour les responsables chinois, un retour de Trump à la Maison-Blanche, ce serait finalement une bonne nouvelle, parce qu'avec son mépris pour le multilatéralisme et les alliances, le républicain leur offrirait davantage de marge de manœuvre sur la scène internationale. D'ailleurs, les équipes de Microsoft ont récemment signalé que la Chine tenterait déjà d'influer sur l'élection en discréditant Biden via l'intelligence artificielle et de faux comptes sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, Pékin a nié, mais on peut s'attendre dans les mois qui nous séparent du scrutin à ce que ce genre de procédé se multiplie.
Antoine Malo avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve demain, le lundi. Cyril Sauvageau écoute le rythme de la planète. Parfois ça swing et parfois moins. C'est la BO du monde et c'est maintenant.
France Inter. 18-20.
Cyril, la BO du Monde ce soir est en Hongrie avec cette polémique autour d'une campagne d'affichage au service de Viktor Orban. L'entourage du Premier ministre hongrois a cru bon de détourner à des fins politiques la photo d'un célèbre groupe de punk américain. Très mauvaise idée.
Ce groupe, c'est les Dead Kennedys, une institution du punk californien qui a connu son heure de gloire au début des années 80 avec ses guitares en fil barbelé et la voix possédée de son leader, Jello Biafra. C'est parti de l'initiative d'un mouvement pro-Orban, le Forum d'Union Civile, une organisation financée par le Fidesz, le parti du Premier ministre, et qui orchestre régulièrement des campagnes de propagande. Dernière en date, une série d'affiches placardées dans les rues de Budapest. On y voit les visages des leaders de l'opposition incrustés dans une photo empruntée donc aux Dead Kennedys, photo où les quatre musiciens posent en chemise blanche, cravate noire, avec un S peint sur le torse, S comme dollar. Objectif des pro-Orban, démontrer la dépendance supposée de l'opposition à l'argent occidental.
Et donc réaction immédiate des musiciens, pas question d'être associé à ce détournement grossier.
Même si les Dead Kennedys ne jouent plus ensemble depuis près de 40 ans, les musiciens sont encore très actifs. Le chanteur et deux autres anciens du groupe ont très vite exprimé leur désapprobation sur les réseaux sociaux. Cette photo nous a été volée, je cite, par les fous furieux d'extrême droite qui dirigent la Hongrie. Aucun doute qu'ils volent aussi leur propre peuple. Réponse du camp Orban, tout cela c'est de l'indignation sélective. Ce qu'on entend ici, c'est le chanteur R&B américain Steve Lacy qui avait effectivement déjà détourné la même photo iconique des Dead Kennedys. C'était en 2022 et à l'époque, le groupe n'avait rien trouvé à redire.
Sauf que cette fois, le propos est bien plus politique et c'est un sujet très sensible pour les anciens Dead Kennedys.
S'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas chercher sur ce sujet-là, c'est Djello Biafra, chanteur, polémiste, militant écolo-radical. L'ex-leader des Dead Kennedys est du genre à employer la sulfateuse. Pour vous donner une idée, quelques titres des chansons des Dead Kennedys, je les ai traduits pour vous. Il faut lyncher le propriétaire, okay. Je tue des enfants, ah oui. Droguez-moi ou encore Vacances au Cambodge, une satire du régime des Khmers Rouges. Et que dire de ce classique du groupe California Uberanos? Preuve que Djello Biafra a toujours pris très au sérieux son engagement politique. Il ira jusqu'à mener campagne pour tenter de se faire élire maire de San Francisco à la fin des années 70 et plus tard pour participer aux primaires écologistes. Dans les années 2000, il devient l'une des voix les plus critiques de l'après 11 septembre, allant même jusqu'à faire publier sur disque ses prises de parole. America
is now under martial law. L'Amérique est désormais soumise à la loi martiale. Regardez comme il est facile de manipuler les masses, de les convertir au fascisme, en montrant un mec avec un turban tous les jours à la télé.
Ça vous donne une idée du personnage. Autant dire que les amis de Viktor Orban auraient peut-être mieux fait de s'attaquer à quelqu'un d'autre. Djello Biafra n'est pas du genre à lâcher le morceau. Possible qu'il s'en inspire pour un futur morceau. En attendant, son dernier titre est une charge virulente contre le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Ça s'appelle Satan's Combover, c'est ça, la combinaison de Satan, ouais, en gros, ça. Trop fort. Allez, merci beaucoup Cyril Sauvageau, vous reviendrez lundi prochain pour la peine, le 18-20. La suite, c'est le journal de 19h avec Céline Asselot. Juste après, il y a le téléphone sonne, bien sûr. Bonsoir Fabienne Lemoyne.
Bonsoir Fabienne.
Rédacteur en chef du 18-20 cette semaine. Ce soir, on parle des transfuges de classe.
Oui, à travers vos témoignages, on va voir ce qui se cache derrière ce concept sociologique, souvent incarné par la figure d'Annie Ernaux. Est-ce qu'il y a des parcours comme celui de Sandrine? Elle vient d'un milieu populaire, elle est devenue prof, mais pourtant elle se sent comme apatride, le mot est fort, dans ce nouveau milieu social qui n'a rien à voir avec celui de ses parents. Odile, elle était médecin, elle a des parents ouvriers, elle oscille entre fierté et culpabilité d'avoir gravi des échelons. Alors avec Laëlia Véron qui vient de publier Trahir et Venger, on décryptera vos récits pour voir si les vrais transfuges ne sont peut-être pas ceux que l'on croit.
Et ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000 pour discuter avec nous, c'est le même chemin par WhatsApp. À tout de suite.